encore de 2022, Michel Bonnet. Bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'acteurs importants de la vie de Corde en 1222, enfin de la région des Pays Cordés en 1222, dont on n'en parle pas beaucoup, c'est étonnant. Et donc, on va leur consacrer une émission, même peut-être deux. Je veux parler des abeilles. Ah, mais oui, des abeilles. Bon, vous vous doutez que si l'émission porte sur les abeilles, c'est parce que dans les jours qui viennent, le 20 mai, on a l'ONU a décidé de faire de cette journée-là une journée mondiale pour les abeilles, parce que ça pose énormément de problèmes. Alors évidemment, on se doit d'être, CFM étant à la pointe de l'actualité, on se doit de faire une émission donc sur les abeilles. Alors, ce qui est intéressant, je me suis dit, est-ce que véritablement on se rend compte de l'énorme travail qu'il y a eu autour des abeilles à l'époque où Corde a été fondée? Parce que on a une chose, bon, les abeilles, évidemment, elles produisent du miel, tout le monde le sait. Je vais pas vous dire ce que c'est que les abeilles, comment elles font, non. Oh, quand même, vous avez ça en tête. Hein. Mais, on se rend peut-être pas assez compte à quel point le miel était important, les abeilles en général, mais le miel, notamment, était important pour les cordées au Moyen-Âge, quoi, disons. D'abord pour la nourriture, parce que quand ils voulaient avoir quelque chose d'un peu sucré, ils n'avaient que le miel. On n'avait pas, à cette époque-là, d'autres possibilités de fabriquer du sucré. Donc, pour la cuisine... il fallait ajouter du miel parce que en plus il y avait beaucoup de plats qui mettaient du miel dedans pour donner du goût, etc. Bon, vous connaissez sans doute ça mieux que moi. Et puis la pâtisserie, bien sûr. Et la pâtisserie de tout temps, de toutes les époques, ça a été quelque chose d'assez important. Mais il n'y avait pas que la nourriture. Et il y avait aussi la boisson. Et le miel était très important pour la boisson, parce que on buvait surtout du vin, bien sûr, mais un vin, on calcule qu'au Moyen-Âge, les gens dans la région, ils buvaient à peu près 2 litres de vin par jour, par personne et par jour. Ça fait assez gros. Maintenant, faut dire que c'est un vin qui était pas fort du tout, 5-6 degrés, ouais, un peu comme la bière aujourd'hui, quoi. Mais surtout qui était très acide, en quelque sorte. Vous voyez, c'était presque du vinaigre, plutôt que du vin comme aujourd'hui. Si bien que on le mélangeait beaucoup avec du miel. On mélangeait de miel et du vin, et ça donnait une boisson, évidemment, pas les braves travailleurs ou les gars du coin, mais pour des gens un peu plus, disons, à l'aise, ça leur faisait un vin un peu meilleur, que vous connaissez, on l'appelle l'hypocrase, et aujourd'hui c'est un apéritif qu'on se doit de présenter à chaque fête cordaise, n'est-ce pas? Mais il y avait également, moins un peu dans le midi, mais quand même ici, il y avait aussi l'hydromel. L'hydromel qui, lui, était fait et venait surtout du nord. Il était descendu, c'est une habitude du nord. L'hypocrase, lui, est monté vers le nord, mais l'hydromel, lui, comme boisson, est descendu du nord, des pays scandinaves, etc. C'était plutôt du miel mélangé avec de l'eau ou l'équivalent, quoi. Bref, dans la boisson, le miel tenait une place importante. Et puis, il y a un troisième secteur où on utilisait le miel beaucoup, c'était dans ce qu'on appellerait la pharmacie, la médecine. On faisait des tas de pommades pour principalement, d'une part, pour alléger toute une série de souffrances, etc. Il y en avait des tas. Quand on voit les manuels de pharmacie ou de médecine de l'époque, c'est étonnant de voir la place du miel là-dedans, et en particulier pour cicatriser. Et c'est un pouvoir de cicatrisant important. Donc vous voyez que les cordées ne pouvaient pas se passer de miel. Dans chaque famille, il fallait qu'il y ait un peu de miel, etc. Donc ça, c'est une première chose. Mais il n'y a pas que le miel avec les abeilles. C'est que il y avait la cire. Et la cire est une chose extrêmement importante aussi, parce que à l'époque, on avait abandonné pratiquement, complètement, les lampes à huile, et on s'éclairait principalement avec des cierges, l'équivalent des cierges, c'est-à-dire que on prenait un bout de ficelle ou un cordon, plus ou moins bien, on le trempait dans de la cire, on le faisait sécher, et ça servait d'éclairage. Alors évidemment, il y avait 36, comme aujourd'hui, il y avait 36 sortes de cierges, vous vous en doutez, et il y en avait qui était énorme, il y en avait qui étaient tout petits, selon le prix, etc. Mais on en consommait beaucoup, parce que, surtout dans les maisons un peu riches, un peu à l'aise, mais il fallait éclairer, et c'était le seul moyen qu'on avait, c'était les cierges. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que à l'église, on utilisait beaucoup les cierges. Mais pas uniquement pour éclairer, enfin pour éclairer l'autel bien sûr, etc. Mais parce que l'Église qui faisait des cérémonies pour un mariage, pour un enterrement, pour un baptême, enfin des choses comme ça, elle faisait payer quelque chose, et on le payait en cierge. Elle disait, pour tel baptême, eh bien, ça sera 3 kilos de cire, ou ça sera 10 cierges de tel poids, etc. Et d'ailleurs, dans les revendications, on trouve des revendications des cordées vis-à-vis de l'évêque d'Albi, disant qu'il augmente trop les frais du culte en demandant trop de cierges. Bien. Donc, vous voyez, ça, c'était important. Pourtant, c'était une sorte d'impôt fixé par l'Église et qui se payait en cire ou en cierge, peu importe. On s'arrête une minute.
CFM Radio, CFM.
Ungeliza ungorando mambeliwa ungorando inge mama e mambeli ingeliwali ungorando inge mama e la sai mambeli ungorando Mambelniza, ungo mambo, inge mama. Era sai, inge liwali, ungo lando. Inge mama, e mamveri, ngoli wali, inge ramno, inge mama, e mamveri langeli nam, ngolamno mameli wam, ngolamno, inge mama. Era saye ngoli wali ngomambo inge mama era
Corde 2022, Michel Bonnet. Donc, on continue à réfléchir aux produits des abeilles, enfin, au travail des abeilles à corde il y a 800 ans. Et je disais que la cire servait beaucoup pour les cierges, notamment pour payer à l'église les pénitences qu'on avait à payer, les frais de culte, etc. Mais même vis-à-vis des prud'hommes, vis-à-vis du consulat, souvent les gens payaient les impôts, non pas avec de l'argent, parce qu'ils en avaient, il y avait très très peu d'argent, mais ils s'en servaient, ils payaient en cierges, puisque la municipalité avait besoin, elle aussi, de cierges. Il faut savoir qu'il y avait toutes sortes de cires plus ou moins pures, plus ou moins bien élaborées, avec de la couleur, des fois avec des parfums, comme aujourd'hui. On le voit dans Corde, ça continue encore. Aujourd'hui, il y a des magasins de cierges, n'est-ce pas ? Vous connaissez ça, nous connaissons ça tout à fait. Mais pour les gens les plus pauvres, ceux qui pouvaient pas se payer de la cire, ils le faisaient avec du suif, avec la graisse de mouton, de bœuf, de mouton surtout, et on faisait pareil des cierges avec du suif. Mais ce qu'il y a, c'est que le suif, lui, il donne de la fumée, et donc dans les maisons, on ne pouvait pas, ça posait des problèmes. Il y a une autre utilisation de la cire qui servait beaucoup, c'est pour l'entretien. Pour les meubles, pour le cuir, pour il y a des tas de on s'en sert et l'entretien du corps aussi en cosmétique, on faisait des pommades comme aujourd'hui d'ailleurs, on s'en sert encore, mais dès cette époque-là on s'en servait. Il y a aussi une chose dont on parle assez peu, mais qui était assez importante pour une ville comme Corde où il y avait du commerce, c'est que on remplaçait les ardoises par des tablettes de cire. En fait, à l'époque, bon, les parchemins ça coûtait très cher, le papier il commençait à peine à sortir, donc il coûtait cher aussi, et à la place, on utilisait beaucoup sur une planche plus ou moins épaisse, plus ou moins grande, évidemment, on coulait de la cire là-dessus, juste une petite couche de cire, et avec un stylet, on pouvait écrire comme on écrit aujourd'hui sur une ardoise avec une craie, et on pouvait l'effacer. D'ailleurs, les stylets de l'époque que on en connaît en archéologie, on en trouve facilement, quoi. Il y avait une pointe pour écrire, et puis de l'autre bout du stylet, il y avait une sorte de petite spatule, un plat, pour effacer ce qu'on avait écrit, remettre à plat la cire, et pouvoir réécrire. Et on s'en servait beaucoup sur les marchés, les foires, pour toutes les transactions financières, et évidemment, il en reste très peu, mais on en trouve encore parfois dans des musées, etc. Donc, vous voyez, ces produits, il y en avait d'autres produits des abeilles, mais c'est les deux produits principaux qui étaient importants pour les cordés. Et ça veut dire que les cordés faisaient attention aux abeilles, parce que les abeilles, où est-ce qu'elles sont? Eh bien, il faut les trouver. Elles sont dans les bois, elles vivent en essaim, et il faut les chercher. Et il fallait courir les forêts autour de Cordes, la Grésigne et tout le reste, pour essayer de repérer où est-ce qu'il y avait des essaims d'abeilles. Et quand on en trouvait, bon, eh bien, les récupérer, c'était extrêmement important. Et on avait un peu également des ruches, c'est-à-dire que ceux qui le pouvaient transporter ces essaims qu'ils avaient trouvés dans la forêt, les amener jusqu'à Cordes, quoi, hein, et soit dans des sacs, soit dans des paniers, beaucoup des paniers en osier, et dans la région ici. Jusque derrière Albi, la montagne noire, quand on rejoint la montagne noire, vous voyez, etc., on avait surtout des ruches en tronc, avec principalement des châtaigniers. On coupait un gros châtaignier et on en faisait des sortes de cercles et on le creusait, ça faisait un vase. Sur le fond, on mettait un genre de grille pour retenir les abeilles, qu'elles puissent travailler. Et même encore, ces ruches troncs, il y a des apiculteurs qui recommencent à lancer ce système plutôt vers l'Ardèche, par là. Mais enfin, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Donc, vous voyez que ça faisait beaucoup de travail pour les gens. Et c'est ce qui était, pourquoi je souligne ça. Parce que toutes ces choses-là, c'est autant de spécialités que les gens ont. Tout le monde ne peut pas s'occuper de ramasser un essaim d'abeilles. Tout le monde ne peut pas transformer, sortir le miel d'une ruche d'abeilles ou le sortir à plus forte raison d'un essaim. Et donc, vous voyez, ça donnait des tas de gens qui avaient des métiers qui tournaient autour du travail des abeilles. Et donc, très variés, très liés les uns aux autres, et avec des relations, avec des règlements, forcément, des accords, des ententes. Au niveau de la législation, on a des tas de textes, de procès pour dire quand un tel, il m'a volé mon essaim, j'avais trouvé l'essaim et j'avais mis une marque au pied de l'arbre pour bien dire que c'était à moi, et puis il l'a pris quand même. Alors bon, et de cette époque-là, tenez, dans le code actuel, si on prend si on a une ruche et qu'on voit un essaim s'en aller, si on peut suivre des yeux l'essaim, on en est toujours propriétaire jusqu'au moment où on le quitte. C'est bien que si l'essaim part de chez moi vers quelqu'un d'autre et que je réussis à le suivre, cette autre personne ne peut pas utiliser l'essaim. Elle doit me le rendre, ou on doit s'entendre. Mais c'est assez amusant, cette chose-là. Mais on n'est jamais propriétaire. On est propriétaire du produit que les abeilles vont faire. C'est une vieille loi. Donc, vous voyez, ça crée tout cela, crée des relations sociales, crée des législations, des habitudes de commerce, etc. Et ça, c'est une partie de la communauté qui naît en relation avec le travail des abeilles et qui est, vous vous en doutez, qui est extrêmement variée. Parce qu'on ne parle pas, mais il faut penser au transport non seulement des essaims, mais au transport du miel, de la cire, etc. Tout ce commerce, et il y avait une concurrence énorme jusqu'à Cordes des produits baltiques, parce que au Moyen-Âge, la plus grosse production de miel, elle venait des pays scandinaves, des pays de la mer Baltique, jusqu'à concurrencer et à envahir même le marché français ou tout au moins d'Europe du Sud. Bien, on va s'arrêter une minute de plus.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
السنيه سيد تعذب فين اللي راح فين اللي غاب قولي لي راح وفين وحشكي حال المين قولي لي راح وفين وحشكي حال المين رسيني يا سيد تعذب فين اللي راح فين اللي
2022, Michel Bonnet. Donc, en l'honneur de cette journée des abeilles, fixée par l'ONU le 20 mai, nous parlons des abeilles à cordes, puisque c'est Cordes 2022, et donc à cordes, il y a 800 ans, les abeilles avaient une importance et une influence sur la vie cordaise. Mais il y a autre chose qui est très peu connue, c'est que à cette époque-là, il y a un moine, on ne peut pas se passer de l'église au Moyen-Âge, vous le savez, et dans la vie de Cordes, etc. On trouve un moine qui est né presque en même temps que Raymond VII, en 1200, et qui est mort un peu après Raymond VII. Donc, qui a vécu véritablement à la même époque, et qui vivait dans son couvent, à Cartempré, peu importe, Thomas, il s'appelle Thomas de Cartempré. Et ce gars-là, et comme pas mal de gens de son époque, pas mal de moines un peu lettrés, qui réfléchissaient, etc., il écrivait des bouquins aujourd'hui, en fait, il écrivait des textes, et la mode, vous le savez, était à faire des encyclopédies. C'est-à-dire que on rassemblait toutes les informations qu'on pouvait trouver sur n'importe quel sujet, en écoutant les uns les autres, en lisant ceci, cela, etc., et puis, on écrivait un texte en fonction de toutes ces informations qu'on avait, mais en prenant un thème particulier à l'intérieur. Or, ce gars-là, ce Thomas de Cartimpré, il a une particularité, c'est qu'il a fait une encyclopédie sur les merveilles des abeilles. Les abeilles en tant que merveilles. Il y en a d'autres qui parlaient des filles, de l'amour, des roses, etc. Lui, des abeilles. Il n'est pas le seul, mais et c'est le principal, il est très connu. Il a fait ça, deux volumes de 82 chapitres, faut le faire, hein, 82 chapitres en latin, bon, en latin, lui, c'était pas un problème, mais enfin, je veux dire, sur les abeilles, j'aime autant vous dire que c'est pas du gâteau de travailler un texte pareil. Et il a été très diffusé, il a été très très connu, puisque on a encore presque 200 manuscrits, ce qui est énorme pour cette époque-là. Et quelquefois, il nous en reste un, deux, toutes les grandes villes, toutes les grandes bibliothèques, les archives, etc., ont facilement un exemplaire plus ou moins identique les uns aux autres, puisque à chaque fois qu'on le recopiait, bien sûr, il y avait des petites différences. Et alors, c'est intéressant, parce que donc voilà quelqu'un qui a donné aux cordées, et qui nous montre que les cordées réfléchissaient à ce qu'étaient les abeilles, à ce qu'était le miel, à ce qu'était la cire, et qui comparaient la vie des abeilles avec la vie des hommes, parce que, comme vous le savez, ça on le dit à chaque émission ou presque, les gens à cette époque-là cherchaient à savoir la volonté de Dieu en regardant vivre le monde. Et un éclair ici, une comète par là, un orage un peu plus loin, le cerou qui déborde, qu'est-ce que ça veut dire? Le bon Dieu nous dit quelque chose. Alors donc les gens... Et Thomas, lui, avait pris ça comme travail et dit « Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers les abeilles ?» Vous voyez ? Bon, ça, c'était pas nouveau, ça, on le fait. Aristote a parlé des abeilles en pagaille, Virgile en autant, enfin, on connaît tout ça si on est allé un peu à l'école enfin, autrefois, parce qu'aujourd'hui, je sais pas trop si on parle beaucoup d'Aristote dans nos écoles, mais enfin, peu importe. Donc, les gens étaient ouverts à ça. Et donc, dans les conversations des cordées, etc., de l'époque, ben, on parlait des abeilles, et on comparait la vie des abeilles avec la vie à cordes. Or, ce que ce moine l'a dit, évidemment, il est curé, enfin, il est curé, vous voyez ce que je veux dire, et il parle de l'église, etc., alors lui, il dit, c'est simple, hein, les abeilles, elles nous montrent que c'est l'ordre qui est la priorité absolue pour que quelque chose aille bien. Parce que les abeilles, on les voit dans les ruches, dans les essaims, elles sont agglutinées, elles travaillent, on les observe, etc., etc. Elles ont des habitudes. Bon, enfin, on connaissait un peu, pas autant qu'aujourd'hui, bien sûr, mais on connaissait un peu la vie d'un essaim, et ça, pour un moine, pour l'Église, disait ça, l'ordre, c'est Dieu qui veut que le monde soit en ordre, marche bien, et que chacun soit à sa place, chacun soit bien obéissant à monsieur le curé, obéissant à l'évêque, obéissant au Seigneur, travaillant comme il fallait, produisant comme il fallait, vous voyez, c'est assez important. Bon, nous, aujourd'hui, on n'a pas que ça en tête quand on pense aux abeilles, mais ce qui marquait, quand on lit ces 82 chapitres, et il invite à réfléchir à l'organisation sociale des abeilles, comment elles sont organisées entre elles. Des chapitres sur le travail, l'organisation du travail, la division du travail. Toutes les abeilles ne font pas toutes la même chose. Et à tous les moments de leur vie, elles ne font pas la même chose. Vous voyez ? Donc, cette division du travail. Et également, il a des chapitres sur... il montre que les activités des individus, des membres d'une communauté, doivent se faire dans l'intérêt de la communauté. Les abeilles ne travaillent pas pour elles, chacune d'elles, non. Elles font du miel qui sert à toute la communauté. Elles font de la cire qui sert à toute la communauté. Quelque chose sur lequel il insiste beaucoup, et qui devait parler un peu au Cordet aussi, c'est que il montre qu'une des qualités du travail des abeilles, c'est qu'elles s'occupent de l'habitat. En permanence, elles refont des cellules avec de la cire, elles agrandissent cela, et quand un essaim ou une ruche est devenue trop exiguë, qu'il y a trop d'abeilles, etc., on se divise et on va refabriquer une nouvelle ruche un nouvel essaim plus loin. Également, il insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas gaspiller ce qu'on fabrique, et donc il faut faire des réserves. Donc vous voyez, il présente l'essaim des abeilles, la vie des abeilles, comme une sorte de société idéale vers laquelle il faudrait tendre si on veut faire plaisir à Dieu, si on veut être heureux, etc. Donc voilà, on a là, c'est intéressant de se rendre compte que à cette époque-là, au Moyen-Âge, comme avant, on réfléchissait sur ce qu'était la vie, les gens, etc., etc. On fait ça aussi aujourd'hui, on l'a toujours fait, mais je pense que c'est important de se rappeler ce cher moine Thomas de Cartimpré. Bon, je vous dis pas qu'il faut lire son livre, d'ailleurs, pour en trouver une traduction française, faut se lever tôt parce qu'il n'est pas publié, mais enfin, c'est intéressant de savoir ça, c'est un lien étroit qu'on a entre donc la création de cordes et puis cette vie des abeilles. Nous nous arrêtons une minute.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville.
C'est être heureux avant d'être vieux.
pouvait prendre en attendant. Quand on arrive à un bout, tout ce qu'on veut c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux.
Corde 2022, Michel Bonnet. Donc, nous avons évoqué la place des abeilles dans la vie de corde, ou dans le Moyen-Âge, si vous voulez, pour aller plus vite, en signalant d'une part tous les travaux que les cordées étaient amenées à faire suite au travail des abeilles, mais également à la réflexion avec un moine qui a écrit une encyclopédie sur les abeilles, Thomas de Cartimpré, qui a vécu pile à cette époque-là. Et donc qui présentait la vie des abeilles comme une sorte de société idéale vers laquelle il fallait tendre, et qui pour lui, le principal, c'était l'obéissance. Et ça, ça nous dit une chose, c'est que aujourd'hui aussi, il faudrait non seulement profiter des abeilles, manger du miel et s'en servir, etc., mais réfléchir à la place des abeilles dans nos vies. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ONU a fixé cette journée mondiale des abeilles. Or, comme vous le savez, ça pose d'énormes problèmes. Et donc il faut absolument que on se mette à réfléchir à la place des abeilles, à la vie des abeilles et à tout ce qui tourne autour des abeilles. Ça, c'est une réflexion qui date depuis les débuts de l'humanité. Vous savez que les abeilles, on a des traces d'abeilles, disons sans doute à peu près 30 à 40 000 ans avant l'apparition même de l'homme. Et donc l'homme est venu, les abeilles étaient déjà là. Et on a en Espagne, dans une grotte en Espagne, il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, ça fait quand même assez vieux, on a une des premières peintures rupestre qui représente quelqu'un en train de ramasser du miel dans un essaim avec un bâton. Bon, c'est, bref, ça montre que c'est très très ancien. Et depuis cette époque-là, tout le monde en a toujours réfléchi à la place des abeilles, si on peut dire, qu'est-ce que ça signifie, etc. La mythologie est extrêmement importante. On vient de le voir un tout petit peu. Au Moyen-Âge, vous savez que, tenez justement, ces jours-ci, on parle de Napoléon un peu plus que d'habitude, puisque c'est l'anniversaire de sa mort. Eh bien, lui, vous savez qu'il a tenu à remplacer la fleur de lys, qui était le symbole des rois, par l'abeille, qui est devenue le symbole de Napoléon. Oui, c'est donc, il a réfléchi à ça aussi, et la même chose, lui il aimait bien l'esclavage, il a rétabli d'ailleurs l'esclavage, il aimait bien tout ce qui était dans l'ordre militaire, etc., donc ça ressemblait aux abeilles. Mais aujourd'hui, les abeilles nous posent un problème, et à l'heure actuelle, on se préoccupe pas beaucoup, semble-t-il, au niveau mondial, du miel, de la cire, de choses comme ça. Par contre, la réflexion que l'on a, les études qui commencent à se faire, on se dit d'une part qu'on ne connaît pas bien les abeilles, et qu'il faut des études beaucoup plus poussées, notamment en milieu de langue française. On est très en retard par rapport au reste du monde sur la connaissance des abeilles. On n'a que deux gros centres d'études en France, et ça va pas loin. En fait, c'est nettement, nettement insuffisant. Et donc, il faut booster un peu la recherche sur les abeilles. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que on nous dit que sans les abeilles, on va avoir la biodiversité qui va en prendre un coup, parce que les abeilles sont des pollinisateurs majeurs. on a, grosso modo, sans les abeilles, on se demande si, effectivement, les plantes, les fleurs, toutes les plantes, etc., continueraient d'exister. Or, nous, un tiers de la nourriture humaine, au niveau mondial, dépend des fleurs. On s'en rend peut-être pas compte, mais ça dépend des fleurs. Et les fleurs, sans les abeilles, eh bien, elles progressent pas, ça diminue. Or, cette action de pollinisation est capitale, et capitale pour l'équilibre de la nature, et par rapport aux changements qui vont venir dans le climat, avec le climat et donc tous ces bouleversements qu'on va avoir dans la nature, on craint justement que les fleurs ou les plantes en général soient moins pollinisées si les abeilles ont des problèmes. Et ça pose une grosse question, c'est que on se fait, autrement dit, du souci pour les abeilles parce que on veut les garder à notre service, oui, mais on se pose pas la question de savoir elles, les abeilles, qu'est-ce qu'elles en pensent. Est-ce que la question que je voudrais poser aujourd'hui et sur laquelle il faudra sans doute revenir, c'est que quand on passe à la survie des abeilles, il faut y penser en partenariat avec les abeilles et non pas en mettant les abeilles à notre service uniquement, à nos besoins humains. Voilà. Donc ça pose de gros problèmes de réflexion sur la place des abeilles, sur notre relation avec les abeilles, pour en faire des partenaires et non pas des esclaves. Et non pas des choses, finalement. Parce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'on se rend compte qu'on est en train de transformer les abeilles avec, à coup de changements génétiques, à coup de trafic sur les neurones, etc. Et par conséquent, ça pose de très, très gros problèmes. Vous voyez que, simplement, en restant avec un pot de miel à côté de nous ou un essaim d'abeilles, ça pose de gros problèmes à la fois politiques, économiques, culturels surtout. Voilà. Et je pense que ça valait la peine de voir que non seulement on accordait de la place aux abeilles et à leurs produits, mais également à la réflexion avec cette encyclopédie de Thomas de Cartimpré sur les abeilles. Ce que je vous propose, nous allons nous arrêter, mais je vous propose que dans 15 jours, on refasse une émission, mais cette fois, non plus sur les abeilles, mais sur le miel, parce que le miel, lui aussi, pose deux gros problèmes. C'était Corde 2022, Michel Bonnet.
Yelling over there.
CFM.
The clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. And I take that dive. To hold a breath is not to be alive. I felt it then, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how. It's taking us up high. This hella case of love. We're nothing but postmodern eyes. What were we thinking of? This is how it happens. Oh, this is how it has to be. This is how it has to be. I'm constructing, but I sure am. My blood is boiling and the callus is hot. My veins are twisting in a sailor's knot. My thalamus is growing down into my tongue. And all I taste is pain in every kissing song. I know this story, I know it well. The cracks are showing in my pearly shell. Outside I'm shaking and I feel the chills. They go both of my Achilles heels. I fall down naked waiting for the star. My arms are rolling waiting to transform. The birds go flying. This is how it has to be. Now let me hear you, girl.